France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Dans les studios de France Bleu Armorique à Rennes, notre invité Paul Jorion, anthropologue, sociologue, professeur associé à l'Université catholique de Lille, je le disais, vous avez publié il y a 10 ans ce livre annonçant la grave crise financière que nous avons vécue, puis je signale cette année un recueil de vos chroniques publiées dans Le Monde, Les Échos, son titre « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie », c'est paru chez Fayard. Si je vous écoute bien, Paul Jorion, au début de notre entretien, la crise financière il y a 10 ans, c'était une juste punition pour le capitalisme et son fonctionnement, et vous en êtes à souhaiter une autre crise financière pour à nouveau punir ce capitalisme dont le fonctionnement vous déçoit et vous êtes insupportable.
Non, vous savez bien, ce sont les plus pauvres qui sont toujours au premier rang pour payer les pots cassés. Le capitalisme, il n'est pas puni, il n'est jamais puni, de la même manière qu'on l'a vu pour la crise des subprimes. Les dirigeants des entreprises n'ont pas été punis, aucun d'entre eux. Si, il y en a quelques-uns qui ont eu des amendes, comme Mozilla, qui était mon patron à une époque à Countrywide, mais ça se limite à ça. On trouve toujours, vous savez, des sous-fifres pour dire que ce sont eux qui ont pris les mauvaises décisions. Oui, effectivement, il y a des fraudes, c'est en général des employés de rang modeste qui font les véritables fraudes. Mais on les encourage, on les laisse faire. Et donc il faut pas punir le capitalisme, non, il faut améliorer le système. Mais ce n'est pas en changeant une petite règle financière ici ou là, en permettant aux régulateurs d'avoir davantage de pouvoir, en essayant de moraliser un peu l'esprit des équipes qu'on va changer véritablement le système. Même cette loi importante que M. Trump veut renverser, la loi Dodd-Frank, n'est pas quelque chose qui a changé véritablement le système. Si ça, on a mis quelques coupe-feux, on a empêché de faire des choses les plus flagrantes, mais de toute manière, les grandes fragilités de la prochaine crise, elles seront ailleurs. Mais non, il ne faut pas punir le capitalisme, il faut l'améliorer, il faut enlever les choses qui sont extrêmement dangereuses.
Mais donc on peut améliorer le capitalisme?
Oui, mais il faut penser
aussi à une chose, c'est que... On le garde et on l'améliore.
Mais c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord comprendre comment il fonctionne. Et là, malheureusement, la science économique, depuis 150 ans, ne nous a pas rendu service. Elle a construit des constructions qui sont parfois de l'ordre du thème astral. Madame Yellen, à la tête de la Fédérale Réserve, vous parle de la courbe de Phillips, qui est à peu près la même chose que le thème astral en astrologie. Il faudrait que notre compréhension de ce qui est fait soit bien améliorée. Alors, il faut bien savoir, la finance, l'économie, tout ça, c'est compliqué. Et ce ne sont pas ces systèmes d'équations qui sont des simplifications extraordinaires qui déforment à ce point le problème qu'on ne comprend plus de quoi il s'agit en réalité. Non, il faudrait faire une véritable science économique. Mais il faudrait commencer tout de suite, c'est-à-dire... on le dit, il y a un certain nombre de gens qui ont prévu cette crise des subprimes, c'était pas impossible. Il y a des gens qui vous disent maintenant, oui, c'est tout à fait impossible à prévoir, c'est pas vrai. Il y a au moins une douzaine de personnes au monde qui n'ont pas simplement dit comme ça un jour, il y aura une crise, mais qui ont écrit des articles, des livres pour dire que ça allait se passer. Pas beaucoup, une demi-douzaine. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui sont sortis du cadre de la science économique pour expliquer ce qui se passait. Ce sont des gens qui ont regardé ce qui se passait véritablement dans les banques et qui n'ont pas fait confiance aux équations. La raison pour laquelle, vous savez, aucun de ces dirigeants d'entreprise n'a été condamné, ni même véritablement accusé. Parce que ils auraient pu dire, nous n'avons fait que des choses qu'au moins une demi-douzaine de prix Nobel d'économie nous disaient de faire. Et ils auraient dit ça, et c'était vrai. Monsieur Blankfein, à la tête de Goldman Sachs, quand il a vraiment été sur la sellette dans un comité sénatorial aux États-Unis, il l'a laissé entendre. Il l'a pas dit comme ça, mais il l'a laissé entendre. Oui. Ennuyez-moi, moi je vous sors tous les Friedman, tous les Hayek et tout ça, qui disent aux banquiers de faire exactement ce qu'on a fait. Monsieur Greenspan, à la tête de la Fédérale Réserve, a dit qu'il n'avait absolument rien vu venir. Et pourtant, il avait une équipe d'économistes considérés comme de premier plan. Comment est-ce possible? Alors qu'à l'intérieur des banques, les gens voyaient ce qui allait se passer.
On va aller au standard d'interactif. Pierre nous appelle. Bonjour Pierre, vous écoutez France Inter. Vous voulez interroger Paul Jorion? Eh bien, c'est le moment. Allez-y.
Monsieur Jorion, et merci de m'avoir donné la parole. Monsieur Jorion, ne pensez-vous pas que l'effet de ce constat et la dette colossale alimentée par la création monétaire des banques centrales. Chacun est bien conscient que cette dette sera impossible à rembourser. Et ne pensez-vous pas que la variable d'ajustement sera une ponction sur l'épargne qui en définitive est artificielle puisqu'elle correspond à de l'argent qui est fictif?
Paul Jorion.
Oui, eh bien, alors, vous pouvez trouver sur mon blog, c'était en 2009, et je crois que j'en ai parlé d'ailleurs justement dans une chronique du Monde. J'ai parlé au moment où on a lancé ce quantitative easing, cette planche à billets tout à fait considérable, d'abord aux États-Unis, ça s'est fait au Japon aussi, un peu plus tard en Europe. J'ai dit fin du capitalisme. Parce que j'ai vu que ces sommes qu'on allait produire, qu'on allait injecter, dont en espérant qu'elles allaient entrer dans l'économie, elles sont pas entrées dans l'économie, que ces sommes allaient rendre impossible le fait de les retirer. Et qu'est-ce que ça fait, le fait qu'il est impossible de les retirer? C'est que le système est encore davantage déséquilibré, parce qu'il y a plein d'argent qui ne fonctionne qu'à l'intérieur du monde de la finance et des gens qui ont le plus d'argent et qui va se placer n'importe où, comme maintenant la bulle boursière. Il y a de nouveau une bulle boursière. La capitalisation des entreprises est à un niveau absolument ridicule qui ne correspond pas du tout à des dividendes qui seront un jour payés. Ces sommes, il deviendrait impossible de les retirer. Et c'est M. James Diamond, à la tête de JP Morgan Chase, qui a dit très récemment, il a dit en fait exactement la même chose que moi, ces sommes, on n'arrivera jamais à les retirer. Elles vont continuer à circuler d'un endroit à l'autre et d'être un facteur de fragilité. Le jour où ça s'effondrera de nouveau, on nous dit bail-in par opposition à bail-out, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens qui ont de l'argent dans des banques de participer au renflouement du système. Mais là aussi, on met déjà des tas de garde-fous pour que ça ne se passe pas véritablement. Ce seront de nouveau les États. De nouveau les États qui vont devoir payer, et on se retournera de nouveau devant les gens ordinaires en disant, ben vous voyez, on n'a plus d'argent, on a dû le dépenser de cette manière-là. Mmh. On en a parlé en 2008, quand on a vu les sommes que les États mettaient pour sauver le système. On disait, mais ces sommes représentent 1000 fois des sommes qu'on nous disait qui étaient impossibles à dégager pour ceci ou cela à l'intérieur de l'État-providence. Or, ces sommes, on les trouvait. Et on disait, ah oui, mais vous voyez bien, tout le système s'effondrerait, ce serait bon pour personne si le système s'effondrait dans son ensemble. Or, ce système, le risque systémique, on ne s'y est pas attaqué. On nous a dit en 2008, ces banques qui représentent, dont la chute provoquerait la chute du système tout entier, comme on l'a vu avec les Lehman Brothers en septembre 2008. Ces banques, il faut les démanteler pour en faire des modules, des sous-ensembles dont chacun représente un risque qui n'entraînerait pas tout le système à sa suite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit finalement, les banques ont dit, mais ça nous empêcherait de prêter de l'argent. Alors qu'il faut savoir qu'elles prêtent quand même dans 50% des sommes qu'elles prêtent, c'est effectivement toujours pour de la spéculation. Qu'est-ce qu'on a fait en France? On a dit, les banques systémiques, on va vous dire au public, ici en France, on appelle ça plutôt une banque universelle. Une banque universelle, c'est formidable, c'est parce que le fait d'état d'activité, en fait, c'est une très bonne chose, ça rend service au public. Oui. C'est-à-dire qu'on a changé les étiquettes plutôt que s'attaquer véritablement au problème.
Paul Jorion, on parle beaucoup là 10 ans après cette très grave crise financière de nouvelles réglementations, d'une surveillance mieux organisée. Vous avez émis des doutes. On parle aussi de cette finance de l'ombre, des activités qui ne sont pas réglementées. Ça représente un quart de la finance mondiale. On a beaucoup de questions. On nous demande, mais comment c'est possible?
C'est-à-dire, on dit elle a la taille, le shadow banking a la taille, un quart de la taille de l'ensemble. Donc en fait, dans l'ensemble, elle représente un cinquième de l'activité. Mais c'est ça, on a réglementé quand même un peu plus le secteur qui est sur l'écran du radar, mais on a laissé se développer un système en parallèle, mais qui est souvent financé, ce sont souvent en fait des filiales ou des filiales déguisées du système tel qu'il existe et qui est, lui, régulé. On a permis à ce shadow banking d'apparaître dans les marges. Et lui, il prend des risques considérables. Il n'y a pas de garantie pour les sommes qui sont prêtées par au niveau de l'État et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le risque s'est déplacé. Il n'est plus sur l'écran de radar, ce qui évidemment est extrêmement dangereux. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir une activité de type financier sans qu'il y ait un système de régulation, oui, de surveillance. Et même quand il y a un système de surveillance, on l'a vu en 2008, ça ne suffit toujours pas. Il y a une chose qu'il faudrait faire, ça s'est fait aux Pays-Bas. On demande aux financiers d'être assermentés, comme le serment d'Hippocrate. Alors, il y a des gens qui disent, oui, ce n'est pas important. Non, c'est quand même quelque chose. On demande aux gens d'être au service du public, d'être au service de la communauté, et pas simplement de pouvoir mettre entre parenthèses les règles qui s'appliquent à tout le monde en se disant, mais nous, on est dans la finance, et tout le monde sait, la finance, elle a une certaine extraterritorialité par rapport au système moral, au système juridique des autres, parce que la rationalité économique, le profit, c'est un truc qui n'est pas nécessairement compatible avec l'éthique, ça a été dit depuis la fin du XVIIIe siècle, et c'est répété dans les milieux de la finance. Vous vous souvenez, en 2008, ce qu'on a vu à la une des journaux, moraliser la finance. Tout le monde a compris qu'il n'y avait pas de raison que la finance fonctionne à l'intérieur d'un autre cadre que le cadre moral et juridique de l'ensemble de la société.
Carmen à Moulins, bonjour Carmen.
Oui, bonjour, et merci de me donner la parole.
Je vous en prie, allez-y.
Alors moi, j'ai entendu tout à l'heure monsieur nous dire qu'il n'était pas d'accord avec l'instauration d'un revenu universel d'existence. Alors j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur son avis là-dessus. Et puis aussi sur le fait que est-ce qu'il ne s'agit pas dans l'avenir de distribuer le travail plus que la richesse financière face à l'urgence écologique notamment.
Réponse de Paul Jorion.
Oui, c'est essentiellement mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans la finance qui me rend extrêmement critique avec vis-à-vis de l'idée du revenu universel, parce que j'ai le sentiment que des sommes de ce type-là seraient distribuées à l'ensemble de la population, seraient absorbées en grande quantité, soit directement par la finance, par un biais ou par un autre, soit par ce qu'on appelle le marché. Il y a une époque où, il y a des gens qui s'en souviennent, quand il y avait quand les salaires étaient indexés, quand le salaire augmentait parce que l'index avait monté, tous les loyers, en bonne synchronie, augmentaient de la somme qui avait été distribuée. On a vu ça également aux États-Unis. En 2009, on a voulu relancer l'immobilier. On a donné 4 000 $ aux ménages qui acquéraient un logement pour la première fois. Le lendemain matin, toutes les maisons coûtaient 4 000 $ de plus. Donc, à mon sens, il ne faut pas distribuer des sommes d'argent dans le système tel qu'il est, parce que ce système est rapace et prédateur vis-à-vis des sommes qui sont données surtout à des gens dont la protection à l'intérieur de notre système général n'est pas très bonne. Donc ce que je prône à la place, c'est la gratuité, de revenir à la gratuité sur l'éducation. C'est essentiel parce qu'on reconstitue des dynasties, on le sait très bien dans nos pays, on a de nouveau des héritiers, des gens qui vont dans des grandes écoles de père en fils et de mère en fille. Il faut que l'éducation redevienne gratuite, il faut que le logement d'une certaine partie le redevienne aussi, il faut que la santé redevienne absolument gratuite. Avec l'argent qu'on peut dégager, avec ce que je propose, vous savez sans doute, je vais lancer cette idée de taxe robot qui a été reprise par monsieur Hamon, en prenant une partie de la richesse créée par les machines qui remplacent les gens purement et simplement dans les entreprises, on peut financer la gratuité sur les choses essentielles. Oui. On peut généraliser des systèmes comme le système de chèque-repas, etc., qui sont d'une certaine manière de la gratuité sur l'alimentation. C'est là, à mon sens, qu'il faut agir. Et si on distribue des sommes comme 500 ou 800 euros à des gens qui n'en ont absolument pas besoin financièrement, ils vont le dépenser à des choses qui ne seront pas nécessairement très intéressantes pour l'économie et qui participeront encore à notre destruction de l'environnement autour de nous. Non, il faut cibler, mais il faut cibler en utilisant les sommes qu'on peut dégager, oui, en les protégeant contre la prédation du système autour.
Paul Jorion, il nous reste une minute. En une minute, comment imaginez-vous le scénario de la prochaine crise financière ?
C'est plus difficile à dire qu'en 2008. En 2008, ouais, il y avait effectivement un certain nombre de gens qui ont vu la ligne qui allait dès ce prime, même si c'était un tout petit secteur, qui allait vers tout le reste de l'économie. Maintenant, malheureusement, c'est plus difficile. Pourquoi ? Non pas parce que une crise devient moins probable, mais parce qu'il y a plus de mines dans le champ de mines. Il y a plus de choses où ça pourrait exploser. Et la concentration, parce qu'on nous dit encore que les grosses banques sont devenues encore plus grosses, c'est-à-dire que le risque de contagion est encore plus rapide. Covid. Bien sûr, on a mis ici ou là des coups de feu, mais des coupe-feu, mais vous le savez aussi, c'est pas l'endroit où on a mis un coupe-feu que l'incendie va s'étendre, c'est à l'endroit où on n'a pas prévu. Et ce shadow banking dont on parlait, c'est un endroit très exposé parce que justement, il n'est pas surveillé.
Merci beaucoup, Paul Jorion, anthropologue, sociologue, était l'invité de France Inter ce matin dans les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Je rappelle votre recueil de chroniques publié dans Le Monde et Les Échos. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie et c'est paru chez Fayard.